Hébreux chapitre 11. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Par la foi, Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il recherche. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit, et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit, pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul, et d'un seul homme déjà morti, sont nés des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre, et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham étant éprouvé a offert Isaac. Et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à l'égard duquel il avait été dit à Isaac, te sera appelé une semence. Ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi en figure il le reçut. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l'égard des choses à venir. Par la foi, Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora appuyé sur le bout de son bâton. Par la foi, Joseph, en terminant sa vie, fit mention de la sortie des fils d'Israël et donna un ordre touchant ses os. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il a fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne les touchât pas. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche. Ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour 7 jours durant. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu les espions en paix. Et que dirais-je davantage? Car le temps me manquera si je discours de Gédéon, de Barak et de Samson et de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes, qui par la foi subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, de faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturés, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvés par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Ils furent lapidés, sciés, tentés. Ils moururent égorgés par l'épée. Ils errèrent, çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre dans le besoin, affligés, maltraités, desquels le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, et les cavernes et les trous de la terre. Et tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis, Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous.
Introduction à l'étude de ce chapitre, que nous avons d'ailleurs déjà un peu abordé hier, et peut-être de revenir d'un mot sur une question exposée brièvement par un frère hier, et qui n'a peut-être pas été bien saisie, bien comprise par plusieurs, et je dois dire par moi le premier, parce que j'avais mal entendu. C'est ce qui avait été présenté concernant la double épreuve, les 2 épreuves successives auxquelles ces croyants hébreux auxquels l'Épître est directement adressé ont eu affaire. Ils avaient, et ceci se rapporte au paragraphe précédent, bien sûr, ils avaient eu d'abord à endurer un grand combat de souffrance, et ils avaient eu besoin de foi pour soutenir ce combat, ils avaient été fortifiés de telle manière qu'ils avaient enduré ce grand combat après avoir été éclairés, et ils ceux-mêmes qui n'avaient pas été emprisonnés avaient montré de la sympathie pour les prisonniers, et ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, la certitude leur étant donnée qu'ils avaient pour eux-mêmes des biens meilleurs et permanents. Et que passer ainsi au christianisme, ayant reçu la foi en Christ, ayant reçu la parole du Christ par la foi, ils luttaient avec la perspective d'avoir immédiatement des biens meilleurs et permanents. Une deuxième épreuve leur survient ensuite, lorsque cette tempête est passée. Les biens meilleurs et permanents, ils ne les ont pas encore à leur disposition, entre leurs mains, de façon visible. Ils ont à les attendre. Il y a du relâche quant aux circonstances extérieures, mais il faut attendre et attendre encore, et alors ils se trouvent éprouvés dans cette attente même, et ils ont besoin que la confiance qui les avait soutenus au temps de l'épreuve continue à être leur part en attendant d'être mis en possession de ses biens. La foi est appelée à devenir non plus seulement la foi immédiate, la foi de l'âme éclairée, illuminée, passant dans ce qui est en réalité la nouvelle création, la foi soutenue au jour du combat dans des circonstances exceptionnelles, mais la foi quotidienne, la foi de tous les jours, la foi que toutes les menues circonstances de la vie semblent peu à peu miner. Ne rejetez pas votre confiance, bien que la promesse qui vous ait été faite de biens meilleurs et permanents semble reculer toujours plus loin dans son accomplissement. Alors nous avons ce verset capital. Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense. Non seulement qui aura, mais qui a déjà. Et nous avons là, on peut dire, réuni la foi pratique, la confiance dans chaque circonstance de la vie, la foi en application jour après jour, et l'espérance. Et l'espérance de l'accomplissement de la promesse et de la possession effective de ce qui est appelé ici la grande récompense. Grande récompense, mais que la foi, alors, saisit dès maintenant. Le contraste est complet avec l'ancien état de choses, avec, pour ces chrétiens hébreux, les temps de l'ancienne alliance, des cérémonies, de la loi que l'on ne pouvait pas observer. Il s'agit maintenant de saisir par la foi ce que Dieu a donné, donné en espérance, et le présent et l'avenir se trouvent pour ainsi dire réunis dans le croyant. Et les exemples de croyants de l'Ancien Testament vont être donnés comme ceux qui ont reçu des promesses et qui n'ont pas reçu effectivement ce qui avait été promis, mais qui déjà ont connu la grande récompense de la foi et ont marché ainsi, bien que il n'ait pas eu de si grandes et de si précieuses promesses que les ont maintenant les croyants du christianisme. Alors en tête, nous avons la foi et l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. On a disserté bien souvent sur le fait que ce soit une définition ou pas que ce premier verset. Il faudrait d'abord savoir ce qu'on entend par définition. Et en réalité, le même objet, la même chose peut être défini de façon bien diverse. De sorte qu'on pourrait bien dire que c'est une définition de la foi, mais par ses caractères, mais plus encore, par ce qu'elle entraîne, par ce qu'elle comporte. Et en réalité, comme cela a été rappelé encore tout à l'heure dans l'action de grâce, la parole ne nous entretient pas de définition. L'écriture n'est pas une affaire de définition. Il y en a très peu, si même il y en a, des définitions véritables dans l'écriture. Il y a des faits. Il y a des faits. Il y a des réalités. Et ce sont ces faits qui sont placés devant nous comme encouragement. Et ce sont ces réalités qui, même invisibles, sont présentées à la foi. Alors, la foi, qui a reçu les paroles de Dieu, et qui a toujours pour origine et pour fondement la parole de Dieu, déjà la foi qui sauve, et puis la foi qui permet de vivre comme des sauvés, parce que l'on croit, vivre par la foi, le juste vivra de foi. On a insisté hier sur cette vérité, et c'est ce qui est développé dans ce chapitre 11. Cette foi, ce croyant, vit de la parole reçue par la foi. C'est une parole vivante, et c'est une parole vivifiante, et qui entretient la vie, et le Saint-Esprit est là pour l'appliquer à l'âme. Et il en est ainsi parce que c'est Dieu qui a parlé. Et c'est Dieu qui a prononcé la parole de salut, de pardon, après nous avoir montré ce que nous étions, et c'est Dieu qui fait et les grandes promesses, et leur accomplissement est en Christ. La foi, comme selon la parole que le Seigneur lui-même emploie sur cette terre, en parlant de ceux qui le recevaient, celle que Dieu est vrai. Voilà au fond ce qui caractérise le croyant. Il s'empare de ce que Dieu a dit et il vit avec cela. Alors, dans l'avenir, et il y a éternelles bénédictions célestes. Il y a la part infinie qui est promise en Christ. Eh bien, la foi en a déjà la substance, possède déjà ce qui pourtant n'aura lieu que dans l'avenir. La foi le possède comme un présent réel, même invisible, à l'avance, non seulement les arts de l'héritage, mais ce qui est la joie propre de l'héritage, la très grande récompense, et bien au-delà de tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Mais c'est une chose solide, bien établie sur la parole de Dieu. Ce terme d'assurance, vous voyez la note ici, qui nous l'explique un peu. Il nous est dit la ferme conviction, quelque chose qui est dans l'âme absolument comme une réalité. Le terme original est employé 3 fois dans l'Épître aux Hébreux, et chaque fois traduit de façon différente, avec beaucoup de justesse, par un autre vénéré traducteur, mais sous des acceptions, sous des points de vue différents. C'est ainsi que dans le premier chapitre au verset 3, quand il nous est dit que le Fils est le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance, le mot substance ici est exactement le même mot qui est traduit dans notre verset 1 du chapitre 11 par l'assurance. Une substance, quelque chose de réel, l'essence même la déité. Et au chapitre 3, au verset 14, nous avons la traduction la même que au chapitre 11, c'est l'assurance. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Ce que nous avons entrevu, reçu par la foi dès le début, mais comme une réalité qui sera un jour effectivement mise entre nos mains, que nous posséderons, dans laquelle nous entrerons, eh bien, déjà nous en avons cette assurance, la ferme assurance. Comme si elle prenait sa demeure dans notre âme, qu'elle venait habiter en nous. Et puis, voilà quant aux choses de l'avenir. Et maintenant, nous avons la conviction de celles qu'on ne voit pas, dans le présent aussi bien que dans l'avenir, les choses qui ne se voient pas, par opposition aux choses qui se voient, dont il nous est parlé au verset suivant, qui ont été créées, qui ont été faites de choses qui ne paraissent pas. Eh bien, les choses qui sont invisibles demeurent. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 des Corinthiens. Et alors, la foi a la ferme conviction, à la note nous dit encore la démonstration, mais une démonstration intérieure de l'existence de ces choses qui ne se voient pas. Et pour le croyant chrétien, tout cela se rencontre, se concentre dans la personne bénie et de celui qui est glorifié dans le ciel, que nous attendons. C'est là l'objet de l'espérance immédiate, l'objet de notre attente, mais celui que dès maintenant, par la foi sans le voir, croyant en lui et l'aimant, comme dit l'apôtre Pierre, nous le contemplons dans la gloire, et quoiqu'invisible, et nous sentons sa présence. Et c'est avec cette foi et que nous sommes appelés à vivre, à cheminer ici-bas, l'appliquant aux choses de la vie, le faisant entrer dans toutes les choses de la vie quotidienne, la vie présente de la foi. Mais alors, c'est la jouissance déjà présente de la grande récompense dont il était question en ce verset 35 du chapitre précédent. La foi est une foi de confiance ici, mais vivante et qui agit. Elle n'est pas inerte, elle n'est pas stérile, oisive, non. Nous avons constamment la vie active de la foi dans ce chapitre 11. Elle est soutenue tout le long du chemin et jusqu'au bout par la parole de Dieu, par les promesses des biens meilleurs et permanents. À qui est mise en possession ces grandes choses, on saurait trop y insister, le juste vivra et vivra de foi. Et à n'en pas douter, dans cet épître aux Hébreux, ce chapitre, et il occupe une place toute particulière, mais combien importante, dans toute cette épître aux Hébreux, nous avons vu mis de côté tout ce qui était de l'ancienne économie et de la loi qui était l'essentiel pour le peuple d'Israël, la loi donnée à un homme charnel qui ne pouvait pas l'accomplir, et la loi ici est entièrement mise de côté, entièrement mise de côté. Pas plus que l'homme ne peut être justifié par des œuvres de loi, il ne peut pas vivre avec des œuvres de loi, il ne peut pas les accomplir en tant que loi imposée. Mais c'est la foi qui se saisissant de la grande récompense vit déjà dans l'assurance et dans la joie qui accompagne cette assurance-là.
On peut noter une différence quant aux conditions des croyants de l'Ancien Testament et celles des chrétiens. Et la condition des chrétiens est meilleure. Ce qui produisait ces fruits remarquables chez ces hommes dont l'Écriture cite les actes, c'était le Saint-Esprit agissant en eux. Car la foi, par exemple, est l'effet d'une opération du Saint-Esprit dans un homme. Rappelons en passant, pour ouvrir une parenthèse, que dans la Déité, le Père et le Fils sont objets, et que l'Esprit, le Saint-Esprit, est agent. On n'adore pas le Saint-Esprit. On adore le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Et en tout temps, le Saint-Esprit, c'est lui qui agit, qui opère, qui accomplit la pensée de la personne de la Déité. Et cet esprit a agi chez ces personnes qui sont indiquées dans ces chapitres de l'Épître aux Hébreux. Il agissait en Abraham et dans les autres, et d'une telle manière que un Abraham qui ne connaissait pas, qui n'avait pas avec Dieu les rapports que nous avons et pour cause, cet Abraham était ferme, non pas d'une fermeté qui venait de lui, mais c'était l'effet de l'opération du Saint-Esprit en lui. C'est évident que la partie humaine est mise de côté, dans cela, bien que ce soit une action divine dans un homme, pour qu'Abraham, par exemple, offre son fils. Et effectivement, il l'a offert comme s'il l'avait mis à mort. Dans le Nouveau Testament, notre position est meilleure, parce que depuis ce qui caractérise la période chrétienne et la rend distincte de toutes les autres, le très grand fait, c'est que le Saint-Esprit est venu. Il est descendu à la Pentecôte et il n'est jamais reparti. Il est pour toujours sur la terre, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il est donc là sur la terre et il habite dans l'Assemblée, de même qu'il habite dans chaque croyant. Nos rapports avec Dieu sont, on ne se tromperait sûrement pas à le dire, sont plus étroits que ceux qu'Abraham avait. Nous avons plus de lumière sur cela. Mais dans quelques conditions que se manifeste la foi, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, elle est toujours le fruit merveilleux d'une opération divine dans un homme qui n'était pas plus disposé qu'un autre à être fidèle. Le Saint-Esprit produit dans un homme. Et chose qui n'est pas non plus exceptionnelle, c'est que Dieu l'attribue à Abraham. Par la foi, Abraham. En réalité, c'est ce que Dieu a produit chez Abraham, et cela est présenté comme exemple pour nous, afin que nous apprenions à compter sur Dieu. Abraham, comment est-ce qu'il a éprouvé dans son âme? Nous n'en savons rien, mais Dieu a le moyen de se faire connaître comme il l'entend, comme il le veut, à qui il veut. Ou bien d'une façon générale, que c'est Dieu qui produit le bien dans tous les temps, dans toutes les dispensations, et que ce sera à sa gloire, mais en même temps, nous savons aussi qu'il s'est attribué à ceux qui sont fidèles par sa grâce, il sait leur attribuer des bénédictions en rapport avec la fidélité en question.
Qu'on me permette un mot très bref sur les choses importantes qui viennent d'être dites. Il est clair que personne ici ne peut s'y tromper, mais il est bien entendu que quand on parle du Saint-Esprit comme agent, ce n'est pas lui attribuer un rôle secondaire ou une place inférieure dans la dignité. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et quand Dieu est nommé comme tel, les trois personnes de la dignité, de la déité, se trouvent englobées sous ce nom-là. Et ce serait une très grave erreur que quelqu'un puisse penser que le Saint-Esprit occupe une place inférieure. C'en serait une aussi de penser que le Père est inactif, que le Fils est inactif. Toute la parole est là pour dire que le Père travaille, que le Fils est venu pour accomplir une œuvre ici-bas, mais quand il s'agit d'opérer dans des âmes, dans des esprits, sur des consciences, de rendre la parole vivante et opérante, ou non pas rendre, mais employer la parole pour ce qu'elle est, vivante, opérante, alors c'est cette action du Saint-Esprit. Que Dieu nous garde d'aller au-delà de ce que la parole nous donne, et de sonder ce qui reste mystérieux à nos âmes. Mais cette action du Saint-Esprit, souvent méconnue, soit passée sous silence, soit au contraire, présentée d'une telle manière qu'elle n'est plus l'action de l'activité de la divinité, mais un effet de l'imagination des hommes, il est bon que nous en voyons exactement le caractère.
Tout ce que nous pouvons dire à cet égard est tiré de l'Écriture. C'est tout. Et par exemple, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas dit de Christ, jamais. Pas dans le même sens. Et la question a été soulevée, comme toutes les grandes questions et même d'autres, au commencement du témoignage de la fin. Toutes ces questions-là ont été même placées devant les frères, comme souvent, comme pour les embarrasser. Eh bien, nous pouvons avec profit voir de quelle manière des réponses étaient données à des questions souvent mal intentionnées. Nous adorons le Père et le Fils par le Saint-Esprit, mais Dieu est un seul Dieu en trois personnes, mais c'est un seul et même Dieu. Cela nous échappe entièrement à notre conception, mais c'est ainsi. L'écriture, les faits de l'écriture nous conduisent à avoir cela.
Et dans notre chapitre, alors, nous avons Dieu et le croyant. Dieu. Saint-Esprit n'est pas mentionné. Il occupe d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux qu'une place réduite comme témoin, nous l'avons vu au chapitre 10 essentiellement, comme le motif et l'esprit de Christ dans le sens de l'amenant à accomplir son œuvre, il s'est offert par l'Esprit éternel. Mais ici, dans ce chapitre, et nous trouvons alors la foi d'une manière très générale et pour ces chrétiens hébreux en dehors du christianisme, puisqu'il s'agit des témoins de l'ancienne économie, ces croyants ayant affaire avec Dieu. S'il y a un témoignage que l'aurait rendu, c'est Dieu qui le rend. Et s'ils reçoivent quelque chose, c'est de Dieu. Alors, c'est par elle, par la foi, et cette foi pratique, la foi de la vie sur cette terre, de gens qui ont écouté la parole de Dieu, c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage, ou qu'il a été rendu témoignage aux anciens, mais qu'ils étaient en relation avec Dieu et qu'ils étaient placés vis-à-vis du monde sans avoir les privilèges et les relations nouvelles du christianisme. Ils étaient placés vis-à-vis du monde dans une sphère différente. Par la foi, ils entraient dans ce qui échappe totalement à l'inconverti, à l'incrédule. Alors le chapitre lui-même se présente, suivant une distinction qui s'impose d'elle-même, les sept premiers versets ont un caractère général, présente les grands principes de cette foi, les grands principes suivant lesquels s'établissent des relations entre les croyants et Dieu, les grands principes de leur marche dans ce monde et vis-à-vis de ce monde. Ensuite, on a ce que l'on a souvent présentés comme des exemples remarquables de la patience de la foi avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ensuite. La patience de la foi se reposant sur les promesses. Du verset 8 jusqu'au verset 22, c'est essentiellement cela. Et si Dieu le permet, on aura l'occasion de revoir cela fait après fait, jusqu'à cette démonstration merveilleuse donnée par Abraham lors de la résurrection d'Isaac. Et c'est la patience de la foi appuyée précisément sur les promesses, c'est la foi ayant affaire aux promesses, et ne perdant pas confiance, bien que les promesses ne soient pas encore accomplies. Il meurt dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais ayant vu de loin et salué. Ensuite, depuis le verset 23, on peut dire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 38, c'est l'énergie de la foi, c'est la foi aux prises avec les difficultés, avec les ennemis qu'il y a dans ce monde, qui lui est dans les ténèbres, assujetti à Satan. Et ce sont les combats de la foi poursuivis avec cette énergie de la foi, échappant aux séductions comme triomphant des intimidations et des violences de ce monde, des persécutions elles-mêmes. La patience de la foi ayant affaire avec les promesses, la foi ayant à poursuivre son chemin face à un monde ennemi.
C'est très beau cela. Et cela peut se rencontrer de nos jours, même se doit se rencontrer. Voilà quelqu'un qui a été converti ces derniers jours. Une jeune personne. La foi lui a été donnée. Et en toute tranquillité, elle est sûre de son fait. Elle a une certitude intérieure quant à sa position et du changement qui a été opéré en elle. Et cette assurance, cette certitude ne peuvent jamais venir du dehors. C'est toujours Dieu qui produit cela. Et même si, ici, nous sommes assurés d'aller au ciel, nous avons une assurance intérieure. Ce n'est pas parce qu'on nous a donné un enseignement, c'est exact, mais tant que l'enseignement n'est pas reçu par la foi, il n'y a rien. L'assurance est l'effet donc d'une opération divine dans l'âme. C'est ainsi que même des chrétiens très peu avancés en doctrine ont pu rendre témoignage dans des conditions très difficiles. Ils avaient une puissance intérieure, une assurance intérieure qui les faisait ne pas fléchir du tout, et cela sans aucune prétention, en toute simplicité et humilité. Vous connaissez Dieu? Oui, je le connais. Je suis sûr que je le connais. Voilà ce qu'un chrétien peut dire. Ah, mais je le connais, bien sûr, je connais Dieu. Comment le connaissez-vous? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je le connais. Non seulement il existe, mais je le connais.
Les grands principes qui nous sont donnés dans le premier paragraphe et dans cette certitude, ce témoignage reçu par la foi, par les croyants des anciens temps, nous avons d'abord cette connaissance, ce qui est appelé la compréhension ici, ce qui a excité évidemment de tous les temps la curiosité des hommes, suscité des imaginations, des théories échafaudées, les unes sans autres fondements qu'imagination, d'autres fondées sur certaines observations, et c'est la science actuelle, c'est-à-dire la signification même du monde, son origine, et la foi comprend cela. Cela a été le privilège de l'homme croyant depuis le début, sachant qu'il y a, en ayant la certitude, que Dieu est et qu'il est le Créateur, première chose, et que les choses qui se voient ont été faites par ce Créateur de de choses invisibles. Ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Et cela satisfait l'esprit.
La formule ancienne, c'était « Rien ne peut venir de rien ». La pensée de la foi, c'est que tout vient de rien. Dieu est le créateur de tout. Évidemment, les raisonneurs et les sages taxent cela de folie. Mais la foi ne s'embarrasse pas de cela, mais la foi véritable ne s'embarrasse pas de cela, sans mépriser qui que ce soit. Mais nous savons que tout a été tiré du néant, et que tout appartient à Dieu et est sous son contrôle.
On pourrait même dire, toutes choses sont tirées de Dieu lui-même, n'est-ce pas ? En réalité, le terme de rien ou de néant n'est pas employé, n'est-ce pas ? N'est pas employé par la parole.
C'est une formule des hommes. C'est ça.
Oh, oui. Les hommes parlent de néant et de rien. La parole dit les choses, ce qui se voit, donc les choses visibles qui tombent sous nos sens, n'a pas été fait de choses qui paraissent. De choses qui paraissent. Donc, il y a des choses invisibles. Il y a un créateur. Et ce qui demeure, et c'est le Dieu qui est. Le Dieu qui est, celui qui est. Ça arrive bien souvent de répéter, et beaucoup ici pourraient me le reprocher, de dire que les grandes contradictions de l'esprit humain, dont il ne veut pas, dont l'esprit humain ne veut pas convenir, se ramènent à ceci. On considère bien de tous côtés. L'esprit de l'homme ne peut absolument pas se représenter le néant absolu. Il ne peut pas se représenter le néant absolu. Essayez de vous représenter le néant absolu, qu'il n'y a rien. Impossible. Votre esprit ne peut pas concevoir cela. Il ne peut pas davantage se représenter quelque chose qui n'a pas un commencement et une fin. Il ne peut pas se représenter ce qui est éternel. Impossible. Les deux choses sont fondamentalement impossibles à l'esprit humain et les deux choses sont contradictoires. Parce que, ou bien il y a quelque chose qui est éternel, ou bien il y a ou il y a eu le néant absolu. Voilà, contradiction fondamentale, et cela suffit dans la simplicité de la présentation de cette chose-là, pour nous dire que l'esprit de l'homme n'est pas capable de comprendre ce qui, alors, est le privilège de la foi de comprendre. Il ne nous est pas dit que nous comprenons comment les mondes ont été formés. Et nous comprenons qu'ils l'ont été par la parole de Dieu. Et nous voilà emportés au premier chapitre de la Genèse.
L'homme, l'incrédule, pauvre misérable, on a pitié d'eux, n'est-ce pas, grandement, ne peuvent pas davantage comprendre ce qu'est Dieu. Et nous non plus, nous ne cherchons pas à le comprendre. Nous le connaissons par nos besoins. Et toujours et seulement de cette manière-là. Et non pas par un effort mental. Car pour connaître Dieu autrement, c'est-à-dire par nos capacités humaines, il faudrait être son égal. Nous ne connaissons Dieu que par nos besoins. Et même les croyants, les enfants de Dieu, fond, croissent dans la connaissance de Dieu dans la mesure où ils font l'expérience qu'il répond à leurs besoins. Voilà. Toujours Dieu est suprême et nous sommes ceux qui dépendons de lui, qui dépendent de lui. C'est l'ordre, cela. Et c'est essentiel pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est l'aveuglement des raisonneurs, des penseurs, de gens par ailleurs quelquefois extrêmement intéressants. C'est leur aveuglement que de croire qu'ils peuvent sonder ce qu'est Dieu, non ? Que Dieu en garde la jeunesse, ces choses-là. Parler et la chose a été, trouvons-nous, passage connu.
Dans ce psaume, dans ce psaume 33e, il y a cette parole aussi, donc celle-ci, lui, il a parlé et la chose a été, et c'est un peu avant qu'il est écrit la parole, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et leur armée a été faite par l'esprit de sa bouche. Nous aurions voulu dire encore un mot sur ce premier verset où il est dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. En note, il est parlé de la démonstration intérieure de celle qu'on ne voit pas, et on a dit à plus d'une reprise que la foi était le résultat dans l'âme de l'intervention de l'action divine. En fait, Dieu, agissant par sa parole et par son esprit, produit, communique cette foi à l'âme. Or, ce mot « démonstration » se trouve sous la plume de l'apôtre Paul, précisément en rapport avec la parole agissant de Dieu et en rapport avec son esprit. Dans ce qu'il nous dit dans la deuxième épître à Timothée, en rapport avec la parole, l'apôtre dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » Il est parlé ici de la foi, qui est la conviction, la démonstration. Eh bien, toute parole est utile pour convaincre, pour démontrer. Cette conviction, cette démonstration, c'est cela, la foi, eh bien, cela est opéré par la parole, par toute écriture divinement inspirée, utile pour cela. Et dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle alors de démonstration de l'esprit. Et au chapitre deuxième de cette première épître, il dit ceci, que quand il a été à Corinthe, dans la faiblesse, dans la crainte, dans un grand tremblement, sa parole et sa prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. La parole et la prédication de l'apôtre ne consistaient pas en effets oratoires, dont le but de vouloir à tout prix persuader. Ce n'était pas comme cela que l'apôtre Paul agissait, mais il agissait dans une dépendance très étroite, intime de l'Esprit de Dieu. Sa parole et sa prédication était en démonstration de l'Esprit. Pourquoi ? Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ainsi donc, cette foi, qui est la démonstration des choses que l'on ne voit pas, est produite et communiquée par Dieu lui-même à l'âme, par sa parole, selon 2 Timothée 3:16, et par son esprit, selon 1 Corinthiens 2:4. Et l'apôtre Paul était dans une très étroite dépendance de cet esprit de Dieu, et c'est ainsi que la persuasion était obtenue, non pas par lui-même, par des capacités d'éloquence particulières, pas du tout, par la puissante action de l'Esprit de Dieu. Alors le résultat était clair, il était évident, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et il est significatif, semble-t-il, de voir que l'auteur de ce psaume 33e, parlant alors de la création des cieux, ce que nous avons ensuite en Hébreu 11, eh bien, il dit que les cieux ont été faits par la parole de Dieu et par l'esprit de sa bouche.
Foi reçoit témoignage. Avant de parler choses promises, il est question la justification de l'homme pécheur. Il l'est par la foi et sur la base d'un sacrifice, c'est ce que nous avons avec Abel. Le contraste entre Caïn qui ne tient pas compte de la parole de Dieu, qui avait maudit le sol, contraste entre Caïn et Abel qui au contraire a compris que le péché entraînant la mort, le pécheur ne pouvait être délivré que par un sacrifice sanglant, par une vie offerte par la mort d'un autre, et en type, il offre ce que Dieu peut agréera ce dont il est question d'une telle manière dans cette épître aux Hébreux, le sacrifice de Christ, préfiguré par tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et Caïn reçoit le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage non pas à Abel lui-même, mais à ses dons, à ce qu'il avait offert par la foi. Puis, avec Enoch, on a alors la vie de la foi, une vie dans une relation établie avec Dieu, telle qu'il y a communion, la marche avec Dieu. Et avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Abel avait reçu le témoignage d'être juste en vertu d'un sacrifice typique offert, et d'Enoch, il nous est rien dit d'autre que il fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. La Genèse nous dit qu'il marcha avec Dieu ces 300 ans, et c'est là une leçon, un exemple d'une portée extraordinaire. Un homme marchant avec Dieu. Il ne nous est pas rapporté de choses éclatantes d'Enoch. Il ne nous est pas parlé d'actes précis de la vie d'Enoch. On trouvera dans l'épître de Jude sa prophétie. Il a parlé, mais il ne nous est pas présenté agissant d'une manière remarquable au milieu des hommes, mais seulement il a plu à Dieu. Qu'est-ce qui a plu à Dieu? La foi d'Enoch. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Enoch est donc lui qui a plu à Dieu, quelqu'un qui a cru en Dieu et comme dans celui qui donne les grandes récompenses, la grande récompense. Et cela est en opposition, cela seul est en opposition avec le monde. Le monde qui ne recherche pas Dieu. Le monde, ou bien qui prétend avoir des droits sur Dieu. Voilà quelqu'un qui s'approche de Dieu, non seulement comme du Dieu qui justifie, mais du Dieu qui récompense, quoi donc? La foi. C'est-à-dire celui qui, s'appuyant sur la parole de Dieu, voit par-delà les choses de la vie.
Nous pouvons signaler aussi l'intelligence d'Abel en contraste avec l'état de son frère. Et c'est d'autant plus frappant que nous sommes à l'origine de l'histoire de l'humanité. Et les deux étaient les fils de ceux qui avaient été infidèles. Abel, par la foi, avait le sentiment de l'horreur de la faute de ses parents, la grandeur de leur faute. Cain était un très brave homme, sûrement, on a sûrement dit, probablement très, très, non point paresseux, il y avait des qualités, mais alors là, une faute très grave, c'est qu'il a agi comme si, entre Dieu et l'homme, les parents de Cain et Cain lui-même, un fait solennel ne s'était pas passé, la chute. L'outrage à Dieu. Cain n'a pas la notion de l'outrage à Dieu. Abel l'a. Il est intelligent, puisque nous savons qu'il a offert un sacrifice. Caïn a accompli un acte dont on a dit. Il a, s'est donné beaucoup de peine à tirer des fruits d'une terre maudite et vient devant Dieu avec ces fruits-là. Comme pour dire, c'était insultant au plus haut degré pour Dieu lui-même. Comme pour dire, tu as maudit la terre, mais quand même, j'ai fait des efforts, voilà ce que j'ai, je te l'apporte. Cela avait tout l'air d'affaiblir la déclaration d'un Dieu qui ne se trompe jamais et qui n'a jamais à se corriger. De même, aujourd'hui, par la foi, nous comprenons que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu autrement que par un sacrifice sanglant. Et la faute de Caïn se répète partout, n'est-ce pas? Partout où l'homme chrétien, dit chrétien, prétend se présenter à Dieu avec quelque chose venant de lui et que Dieu pourra agréer. Le meilleur des hommes, le plus excellent des hommes de la terre, ne peut apporter de son propre fond à Dieu que quelque chose que Dieu rejettera. Un péché quel qu'il soit, un péché insignifiant, met tout en question, aussi bien qu'un crime, car il s'agit de Dieu et non pas des relations entre les hommes. Il s'agit des relations de l'homme et des hommes avec Dieu. Alors là, Dieu ne change pas de nature. Il ne peut pas, il ne peut pas se renier lui-même.
Dans le livre de la Genèse, il n'est pas beaucoup parlé de l'appréciation de Dieu à l'égard de l'offrande d'Abel, du sacrifice d'Abel. Il est simplement dit que Dieu eut égard au sacrifice d'Abel, et quant à l'offrande de Caïn, il n'eut pas égard à cette offrande. Alors, éclairé par les lumières du Nouveau Testament, nous voyons tout ce que comporte cet égard de la part de Dieu à l'endroit du sacrifice offert par Abel. Nous avons rien moins que la pensée par avance de la justification. Il faut lire ce passage d'Hébreux 11 pour voir alors en quoi consiste cet égard. Quand il est dit « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Par ce sacrifice, par aucun autre moyen, on peut être juste. Par déjà Abel, par le sacrifice sanglant qu'il a offert, reçoit le témoignage d'être juste. Et il en est ainsi pour qui que ce soit d'entre nous. C'est par le seul sacrifice de Christ, sacrifice expiatoire de la croix, que nous pouvons être justifiés. Nous ne pouvons pas obtenir la moindre justice qui soit par nous-mêmes, par nos capacités, par nos efforts. Peut-être des efforts constants de chaque jour, cela est absolument impossible, ce n'est que par le seul sacrifice de Christ, par la foi en ce sacrifice parfait de Christ que nous pouvons être justifiés de Dieu, justifiés par Dieu. On a déjà donc, en Genèse 4, tout au début des Écritures, on a déjà cette pensée profonde, insondable, de la justification de Dieu à égard au sacrifice d'Abel.
et par là même, il était déjà annoncé que c'était par le seul sacrifice de Christ qu'un pécheur pourrait être justifié devant Dieu. Un mot encore en rapport alors avec l'offrande de Caïn. Cette offrande de Caïn qui est offerte journellement par des milliers d'âmes dont la pensée est d'obtenir quelques pardons, quelques justifications de la part de Dieu. Journellement, des milliers d'âmes pensent que, en accomplissant telle ou telle bonne œuvre, on pourra acquérir quelque justice de la part de Dieu. À cet égard, n'est-il pas remarquable, si nous prenons la peine de lire les chapitres 28 et 29 du livre des Nombres, qui sont le tableau du culte que l'enfant d'Israël devait rendre à son Dieu dans le désert. Il y a là le rappel des sept grandes solennités en Israël. Et à propos de chacune de ces solennités, il est répété, même plusieurs fois, « Tu ne feras aucune œuvre de service ». Ce qui veut simplement dire que tu ne travailleras pas, tu te reposeras, tu honoreras l'Éternel ton Dieu en ne travaillant pas, mais en observant le repos en ses solennités. Il y a un seul passage où il est simplement dit « Vous ne ferez aucune œuvre ». Il n'est pas dit « Vous ferez aucune œuvre de service », c'est-à-dire « Vous ne travaillerez pas, mais vous honorerez ce jour-là en respectant le repos que Dieu vous demande. » Mais quant au grand jour des expiations, ou au grand jour des propitiations, type si remarquable dans le Pentateuque de l'œuvre de la croix, c'est à propos de cette seule solennité, l'avant-dernière des sept, qu'il est dit. Alors que dans les autres, il est dit bien des fois, vous ne ferez aucune œuvre de service, à ce propos-là, au grand jour des expiations, vous ferez aucune œuvre. Il n'est pas dit aucune œuvre de service. Vous ne ferez aucune œuvre. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas déjà entendre en ces temps-là qu'il serait impossible de se rendre Dieu agréable, propice, favorable en accomplissant quelque œuvre que ce soit? Impossibilité absolue de se rendre Dieu favorable en accomplissant des œuvres. Le seul passage en nombre 29 où il est dit, en ce jour-là, vous ne ferez aucune œuvre. Dieu voulant nous montrer que ce n'était pas sur le principe d'œuvre que nous accomplirions en justice, que nous pourrions être justifiés, mais par le seul sacrifice parfait de Christ.
On peut même ajouter que les chrétiens, à leur place, ne peuvent plaire à Dieu en mettant quelque chose du leur, en introduisant dans leur vie quelque chose d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Cela, Dieu ne le reçoit pas, donc pas davantage. Il ne reçoit que ce que lui-même produit dans les siens. Je vais faire une autre remarque, et cela peut s'appliquer à nous tous. Une autre remarque, très brève, c'est que cette scène de Caïn et d'Abel a été suivie par l'accomplissement du fait affreux de premier meurtre dans l'histoire du monde. Et qu'est-ce qu'y a-t-il à l'origine du geste que Caïn a fait? Il était insupportable à Caïn, pour Caïn, de voir que Dieu approuvait Abel et n'approuvait pas Caïn lui-même. Le résultat, ça a été ce crime affreux. Quelle histoire que l'histoire du monde! Les drames n'ont pas tardé à se faire jour dans cette histoire. Et depuis ce temps-là,
il est heureux de voir l'Esprit de Dieu relever les témoignages rendus aux croyants, parce que eux-mêmes ont reçu le témoignage de Dieu se révélant, donnant sa parole. Au milieu d'un tel monde qui se développe après le crime de Caïn, et comme conséquence du crime de Caïn, voir Genèse 4, il y aura désormais la famille de la foi. Abel est mort, mais Seth sera suscité, et puis la descendance de Seth, qui figure la famille de la foi, et désormais il y a des croyants dont des exemples si remarquables nous sont rapportés dans ce chapitre 11 des Hébreux. De sorte que s'il s'agit d'Abel et de Caïn, il est simplement dit ici, Abel offrit un plus excellent sacrifice que Caïn. Il n'est pas question autrement de Caïn ici, on le retrouvera ailleurs, on le retrouve dans l'épître de Jude en particulier, on le retrouve dans l'épître de Jean. Mais ici, c'est la foi d'Abel qui est mise en évidence. Aucune œuvre en dehors de la foi ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et il ne peut pas y avoir d'œuvre de justification, nous le savons, et la foi est là qui introduit le croyant dans ce domaine nouveau où on agit, où il y a des actes, où il y a une vie qui peut être, qui doit être, qui est une vie agréable à Dieu dans la mesure où c'est la vie de la foi. Et là, se présente, sans question de temps, on peut dire, la très grande récompense. Est-ce peu de choses pour le croyant que d'être appelé sur la terre à servir Dieu, à servir le Seigneur, à l'adorer, à lui rendre témoignage. Et si vraiment la foi est en exercice, mais y a-t-il quelque chose de plus grand, de plus heureux, de plus digne? Et cela se rencontre, pour bien parler, se rencontre avec le bon plaisir de Dieu. Et l'on a cette vie d'Enoch qui a pu recevoir le témoignage d'avoir plu à Dieu par la foi. Il est simplement dit cela ici. De la vie elle-même, il n'est pas parlé. J'entends l'existence d'Enoch, mais le terme est là. Ce terme, il n'a pas de terme sur la terre, il se continue sans changement, on peut dire, passant de la terre au ciel, il est enlevé, il n'est plus. Mais ayant reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Et cela aussi est à la disposition de la foi dans tous les temps. Et cela nous est dit à nous. Et cela nous fait nous demander si il y a beaucoup de moments dans notre vie où cette relation connue, éprouvée du croyant avec Dieu, rémunérateur de ceux qui le recherchent, est une réalité. Et si les moments sont nombreux de véritable communion avec Dieu. Mais Dieu est toujours le même. C'est le même Dieu qui s'occupait d'Enoch. C'est le même Dieu dont s'occupait Enoch, un Dieu même que nous connaissons d'une manière que Enoch lui-même ne pouvait pas connaître, puisque nous l'appelons Père en Jésus-Christ. Qu'un reçoit le témoignage d'être juste. Abel reçoit le témoignage d'être juste. Enoch reçoit le témoignage d'avoir plu à Dieu. Et Noé, lui, va accomplir ce que nous ne trouvons pas chez Enoch, un acte de foi. Toute sa vie est résumée dans une opération, une activité tournée dans le même sens, vers le même objet, la construction de l'arche. Il avait été averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, et alors il les avait considérées comme certaines. Il avait eu l'assurance de choses qui ne se voyaient pas encore. Il craint Dieu, la crainte de la foi, et il bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Il y a le croyant et il y a sa maison. Il y a là bien des sujets de méditation assurément importants. Et par cette arche, nous est-il dit, il condamna le monde. Ah, voilà, une prédication muette, mais combien éloquente, un avertissement solennel. Il appelle sans doute les hommes à la repentance, mais il prononce la condamnation du monde. Ceux qui auraient reçu la parole de Noé serait sorti du monde pour entrer dans l'arche, le monde restant condamné. Bien, il en est ainsi maintenant. La parole de Dieu nous parle d'un monde qui est absolument condamné, qui va vers le jugement, et le témoignage des croyants doit être tel que ceux qui les entourent sachent ce qu'il en est du monde et où est la ressource. Quant à lui-même, Noé, il devient héritier de la justice qui est selon la foi, la justice dont Abel avait reçu le témoignage en vertu de son sacrifice. Et pour Noé, justice démontrée par le fait que il échappe au déluge, il profite du moyen de salut que Dieu avait donné après avoir accompli la mission qui était la sienne d'être un prédicateur de justice, comme nous le trouvons ailleurs. Lui, ici, est héritier de la justice qui est selon la foi. Il était juste selon Dieu que Noé et sa maison fussent sauvés à travers les eaux du déluge.
Nous avons donc dans ces versets-là toute l'étendue de la foi. Tout d'abord, il y a le sacrifice de la croix qui est étendu, qui est présenté et sur laquelle est fondée la justice du croyant. Et c'est ce que nous avons en Abel. Ensuite, en Enoch, nous avons toujours, pour ainsi dire, le même croyant qui est appelé à rendre témoignage et qui marche dans le monde et qui est agréable à Dieu et qui a en fin de compte l'assurance même s'il doit passer par la mort, de la traverser sans dommage. C'est là l'espérance de l'Église. Ensuite, nous avons en Noé le croyant qui a été averti divinement des choses qui ne se voient pas, mais, et du jugement qui doit venir. Il se met à l'abri, il construit l'arche et il invite tous ses compatriotes à profiter de cette arche du salut. Ainsi, pour le croyant, le jugement est pour ainsi dire passé. Nous avons, comme dit Jean, toute assurance pour jour du jugement. C'est un témoignage complet de la foi que nous avons dans ces trois personnes.
Ne pensons pas que cela a été toujours facile, ni pour Enoch, ni pour Noé. Noé a été là, si on peut dire, à la brèche pendant 120 ans. Et ne pensons pas que les hommes étaient moins moqueurs aujourd'hui et qu'autrefois qu'aujourd'hui. C'est un acte brillant de foi d'avoir compté sur Dieu, d'avoir pris Dieu au mot et d'avoir agi comme il l'a fait, au milieu de toutes les oppositions et les moqueries auxquelles nous sommes si sensibles, qui l'entouraient. Il a honoré Dieu, et Dieu, par sa foi, et Dieu bénit la foi. Et la marche de Dieu, avec d'Enoch avec Dieu, 300 ans. Nous avons de la peine à marcher avec Dieu une journée. C'est vrai, cela.
Et Enoch avait affaire, lui aussi, à un monde ennemi. C'est pas sa prophétie que nous trouvons dans l'épître de Jude, elle nous le dit. Il se trouvait au milieu des ennemis de Dieu, des impies, avec leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises, avec les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre Dieu. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, etc. Ainsi donc, on sait qu'il y a trois passages qui nous parlent de cette personnalité remarquable du patriarche Enoch. Et l'on peut résumer brièvement par un terme ce que Dieu nous enseigne par chacun de ces trois passages. En Genèse 5, nous avons Enoch, l'homme de Dieu. Il marcha avec Dieu, il vécut avec Dieu, il a eu affaire avec Dieu, il y a eu des relations incessantes entre son âme et Dieu, un saint commerce de l'âme avec Dieu. C'est là la piété, c'est là l'homme de Dieu, c'est ce qui caractérise l'homme de Dieu. Il a affaire avec Dieu, il marche chaque jour avec Dieu. Dans l'autre passage, il y a un témoignage qui a été rendu, un témoignage vivant, un témoignage éclatant d'une foi vivante, selon laquelle il a pu ainsi marcher avec Dieu, et il nous est dit qu'un tel témoignage pratique, constant, a plu à Dieu. Il a reçu alors de la part de Dieu le témoignage de lui avoir plu. Nous avons là Enoch tel qu'un témoin. Un témoin pour Dieu, comme on vient de l'entendre, au milieu d'un monde hostile. Le monde au temps d'Enoch n'était pas meilleur que le monde actuel, et c'était pas plus facile de rendre témoignage à Dieu en ces jours-là qu'aujourd'hui.
Et enfin, dans l'épître de Jude, alors, nous avons la mission qui a été confiée à Enoch. Enoch avait reçu une mission particulière de la part de Dieu. Il avait une prophétie à prononcer de la part de Dieu, une prophétie annonçant un jugement terrible sur les méchants, précisément sur ce monde hostile. Une prophétie, bien entendu, qui a une grande portée, qui annonce en fait les jugements divins sur le monde. Nous avons là Enoch le prophète, Enoch homme de Dieu, Enoch témoin, Enoch prophète. De cet homme de Dieu, il a été écrit, et nous faisons un devoir de le rappeler. Il y a 80 ans, un traité a été écrit sur Enoch par l'un de nos frères conducteurs, un excellent écrit d'une clarté remarquable, accessible à qui que ce soit, et nous ne saurions trop le recommander aux jeunes. Voilà ce que nos jeunes doivent lire, voilà de quoi ils doivent, après la parole de Dieu, se nourrir de traités semblables. Et ce traité concernant Enoch est un traité remarquable. Nous devrions y revenir et nos jeunes devraient avoir à cœur de le lire.
Il est aussi clair qu'il est bref. Par conséquent, on ne peut pas se retrancher ni derrière la difficulté souvent mise en avant comprendre une littérature un peu difficile, et non plus devant le manque de temps pour lire. Et il est aussi substantiel qu'il est clair et court. Le langage d'Abel continue à être entendu. Non pas le sang d'Abel demandant vengeance, comme nous l'avons dans la Genèse, comme Dieu peut le dire à Caïn, après son crime, le sang d'Abel est là qui parle. La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Mais s'il y a cette voix du sang d'Abel en condamnation contre Caïn, il y avait eu précédemment, et cela continue, la voix d'Abel, la parole d'Abel, par le sacrifice qu'il avait offert, témoignant ainsi, lui le premier, ce qui un jour serait accompli selon la volonté éternelle de Dieu pour la pleine satisfaction de son cœur, pour la délivrance des pécheurs, pour la gloire de Dieu. Par lui, étant mort, il parle encore. Et cela rejoint ce qui vient d'être dit sans rien en ôter. Qu'on puisse dire quelque chose sur l'expression abordée seulement tout à l'heure du verset 7 sur Noé, bâtissant une arche pour la conservation de sa maison, condamnant le monde, nous comprenons, et alors héritier de la justice qui est selon la foi. J'aimerais bien entendre quelque chose de plus.
Que Noé a pris Dieu au mot. Dans des circonstances certainement difficiles, ayant beaucoup de choses contre lui, il a pris Dieu au mot. C'est confié en Dieu, dans la parole de Dieu. Et c'est cela qui... Et c'est cela qui le qualifie, qui fait que Dieu le place parmi ceux qui sont justes parce qu'ils se sont confiés en Dieu. Ils sont cru Dieu. Et au fond, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours en nous confiant en ce que Dieu dit qu'il nous approuve et nous justifie. Noé a condamné le monde en construisant son arche pendant 120 ans. Il a montré que le monde était en opposition à Dieu, que l'injustice le caractérisait et que le jugement l'attendait. Noé, en présence d'une majorité tout entière opposée à lui-même, tient fidèlement à ce que Dieu a dit. Et cela fait qu'il a échappé au jugement et qu'il hérite de la bénédiction que reçoivent les fidèles. Aujourd'hui, quelqu'un croit ce que Dieu dit. Une âme croit, est convertie. En dépit de toutes les influences qu'elle peut subir, elle croit, mais véritablement ayant la foi. Alors elle est du côté de Dieu à partir de ce moment-là. Elle s'est placée du côté de Dieu. Et elle n'est plus dans du parti de ceux qui ne croient pas et qui sont donc contre Dieu. Cette âme, cette personne, entre parmi ceux qui sont justes. Parce qu'ils ont cru Dieu. Cette justice n'est pas liée à la somme des connaissances que l'on peut avoir, même sur la doctrine. Elle est liée au fait que l'on a cru Dieu dans quelques circonstances que ce soit. Car tout se ramène à cela en fin de compte. Que Dieu ait beaucoup dit ou peu parlé, l'affaire c'est de le prendre au mot et de tenir compte entièrement des déclarations qu'il a faites. Dieu compte de telle personne comme juste. La vraie raison de la justice, évidemment, c'est le sacrifice de Christ. Nous savons maintenant, pour tous ceux qui auront ainsi cru Dieu en tous les temps, dans les temps passés, présents et les temps à venir, tous ceux-là, en définitive, dans le fond, seront rendus justes à cause de l'œuvre de Christ, mais ils auront pu être au bénéfice de l'œuvre de Christ parce qu'au temps où ils étaient ici-bas, ils ont cru Dieu et ont été mis de son côté. Par la foi.
Le monde est condamné. Le monde est détruit par le déluge. Seules les 8 personnes sont sauvées. Elles le sont. Pourquoi ? Parce que Noé avait cru. Il était juste pour Dieu de condamner le monde. Il l'avait dit, sa parole s'accomplit selon sa justice. Mais Dieu avait montré et avait dit qu'il y avait une ressource, la foi. Et il est juste et il est fidèle, lui-même, à l'égard de ceux qui l'en cherchent, dont il est le rémunérateur, là, en délivrance, et pour que soit continué sur la terre, sur une terre avec laquelle recommence, on peut dire, l'expérience de l'homme sous un nouveau régime après le déluge, eh bien la lignée de la foi recommence. Je pense que c'est peut-être en rapport avec cela qu'on a le terme de héritier, n'est-ce pas? Héritier. L'espèce humaine semble détruite, elle l'est à l'exception de quelques personnes. Ce sont ceux-là qui recueillent l'héritage qui semblait absolument perdu. Et c'est l'héritage d'une justice que Dieu donne par grâce, assurément, et en vertu de l'œuvre de Christ, mais reçue par l'homme par la foi, sur le principe de la foi, et c'est ce qui demeure jusqu'à aujourd'hui, et tant qu'il y aura des croyants sur la terre.
Cette justice dont il est parlé ici à propos de Noé en Hébreu 11 n'est-elle pas d'autant plus remarquable que dans le livre de la Genèse, dans le récit historique de la vie de Noé, il est dit que Noé était juste. Noé était juste, il était parfait parmi ceux de son temps, il marchait avec Dieu. Mais même dans le livre de la Genèse, il n'est pas spécialement dit que c'était parce qu'il était juste et qu'il y avait une perfection pratique réalisée par lui qu'il a été ainsi gardé des eaux du déluge. Il est dit même dans le livre de la Genèse que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce est mentionnée déjà dans le livre de la Genèse, et en vertu de la grâce de Dieu, Noé a pu être mis à l'abri. Alors, dans notre passage, il semble bien qu'il n'est plus question de cette justice pratique que Dieu a reconnue, que Dieu a approuvée, mais il est alors question de cette justice que Dieu donne et qu'il donne sur le principe de la foi. Et ça a été la part de Noé. La justice, don de Dieu sur le pied de la foi.
Et que dans ce même passage du chapitre 6 de la Genèse, nous avons Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel au sein d'une humanité qui encourait la colère de Dieu sur laquelle elle est tombée le déluge. Il nous est dit ensuite qu'il était un homme juste, c'est ce qui avait été déclaré d'Abel, et il nous est dit ensuite qu'il était parfait parmi ceux de son temps et qu'il marchait avec Dieu, ce qui avait été dit d'Enoch.